c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Chute, on écoute la télé avec Mazagran Immobilier. La Maz Team vous propose toute transaction immobilière pour particuliers et professionnels et une connaissance parfaite de son secteur. Mazagran Immobilier, c'est 4 agences sur les deux Charentes à votre service. Angoulême, Barbezieux, Villebois-Lavalette, Saint-Genis-de-Saintonge et sur mazagran-immobilier.com.
Chute, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.
Attitude.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude, où j'ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure, pendant votre déjeuner, entre 13h et 14h. On va passer en revue ensemble l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, sans plus tarder, voici tout de suite le sommaire.
Chute, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et au sommaire donc de cette troisième émission de la rentrée de Chute, on écoute la télé, eh bien on aura le grand plaisir de consacrer une large partie de cette émission au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle qui se tiendra donc dès demain du côté du Vieux-Port de La Rochelle avec Stéphane Strano, son directeur, et la présidente du jury Sandrine Bonner qui seront avec nous en fin d'émission. Spécial Les Mystères de la Duchesse également avec la productrice Sylvette Friedman, la réalisatrice Emmanuelle Duberger et les asserviers Patrick Reynal, Jérémy Manster, ils seront tous là pour nous parler du téléfilm événement diffusé samedi soir sur France 3. C'est notre coup de cœur ciné cette semaine, Le Tigre et le Président. Il est sorti au cinéma mercredi dernier. Le réalisateur Jean-Marc Perfit et Jacques Gamblin sont nos invités exceptionnels aujourd'hui pour en parler. Liam Batty, il incarne Jonathan Daval dans Le Mystère Daval ce soir sur TF1. Liam sera également notre invité exceptionnel. Demain soir, on va parler du téléfilm d'M6, J'irai au bout de tes rêves, avec Stéphanie Pilonka, la réalisatrice, et Samuel Alain à Bitbol. Vous l'avez compris, on a du pain sur la planche, on va démarrer tout de suite avec notre coup de cœur ciné.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma cette semaine va s'intéresser à la sortie du film Le Tigre et le Président, un film de Jean-Marc Perfit qui est avec nous aujourd'hui, notre invité. Bonjour cher Jean-Marc.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, il va devenir un sociétaire de l'émission cette année parce que, Jacques Gamblin, on est tellement heureux de l'avoir, qu'il revient. Et oui, il revient encore cette année. Après, on sourit pour la photo. Ce coup-ci, le voilà dans le rôle de Paul Deschanel, un président oublié de la République, pour la mémoire collective. Et on va réparer ça de suite, mon cher Jacques. Comment ça va?
Je suis ravi. Je suis ravi de sortir Paul Deschanel de sa tombe.
Exactement, non mais c'est ça qui est incroyable. Alors moi, ce que j'ai aimé dans votre film avant tout, Jean-Marc, c'est que pour une fois on va traiter d'un biopic, d'un film historique sur le ton de la comédie. Et ça fait du bien parce que ça permet justement de l'approcher sur un ton plus léger, même si tout ce qui arrive dedans est vraiment arrivé réel, finalement.
Oui, tout à fait. On a pris quelques libertés quand même avec la réalité historique. Mais ce qui était important, c'était justement de faire passer ces idées avec un ton de légèreté. C'est un personnage tel que Jacques l'a interprété qui était tellement élégant, tellement libre, tellement en avance sur son temps qu'on ne pouvait pas faire un film historique un peu poussiéreux. Il a fallu un peu essayer de ruer dans les brancards et de faire un petit peu comme Deschanel, d'essayer de faire quelque chose de très moderne.
Alors, Paul Deschanel est un président qui a gouverné la France pendant 6 mois en 1920. Donc c'est assez oublié, ça restera simplement le président qui a disparu en sautant d'un train, en quelque sorte. C'est un peu ça.
Oui, c'est tout à fait ça. La plupart des gens l'ont complètement oublié et ceux qui connaissent quelque chose sur lui ne connaissent que cette anecdote un peu ridicule, comme quoi il était tombé d'un train et il était resté 3 jours chez les gardes-barrières alors que toute la France cherchait son président. Et voilà, on s'est dit que c'était un bon moyen pour essayer de trouver, en plus de ses idées avant-gardistes, en plus de sa langue, dans ses discours, on s'est dit que c'était un bon moyen pour essayer de faire du cinéma, de raconter, de faire de la comédie, de faire rire les gens en leur apprenant des choses. Enfin, essayer, voilà, modestement.
Il a pas fait son bel mondo, parce que vous dites il a sauté du train.
Cascade a été mesurée.
Il semblerait qu'il ait chuté du train. On ne sait pas très bien comment, puisque l'histoire est assez divergente là-dessus, semble-t-il. Quoi. Est-ce qu'il est tombé de la fenêtre, par la porte, par le trou des toilettes, j'en sais rien. Bref, voilà, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Lui seul le sait, mais il est trop tard pour lui demander.
Alors, Paul Deschanel, est-ce que c'est une figure politique que vous connaissiez avant? Vous étiez documenté? Comment vous êtes approprié le rôle, Jacques?
Non, je ne connaissais rien de Paul Deschanel, sauf le nom, finalement. Même pas qu'il avait chuté de ce train. Et j'ai tout appris grâce à Jean-Marc Perfit, ici présent, par le scénario et par la façon dont il m'a nourri pour préparer le personnage. Parce qu'il y a pas beaucoup de choses, quoi. J'ai demandé des vidéos. Il y a une ou deux vidéos qui sont arrivées chez moi, mais voilà, il y a peu de choses. Jean-Marc, il a dû être l'archéologue dans tous les sous-sols de la Bibliothèque nationale pour aller chercher, pour aller lire 6000 pages de discours, pour aller extirper les dialogues du film et les propositions de Deschanel à l'époque. C'est quelqu'un qui n'apparaît pas, même sur Internet, quand vous allez faire des recherches et tout ça. C'est vraiment un oublié, on l'a effacé. Alors évidemment, ça laisse peu de documents pour se nourrir, et en même temps ça laisse aussi une grande liberté pour imaginer et pour créer le personnage. Bon, on a des images quand même, ouais, on sait qu'il était comme ci, comme ça, mais on s'en est rapproché, on va dire, d'un point de vue physique, mais c'est pas le plus important. On suggère le personnage, et puis aussi le fait qu'il était malade et qu'il a fallu évidemment composer ces moments où il se désaxe un peu, où il part un peu en vrille, où il s'endort un peu n'importe où il n'arrive pas, enfin ses obsessions, etc. Évidemment, le film est pétri aussi de ces moments-là cocasses où le type est un peu à l'ouest, tout en faisant des propositions extraordinairement visionnaires sur la société. Et c'est ça que le film nous fait découvrir. Le personnage, il est fait de ça, quoi. Une extraordinaire oralité, une intelligence incroyable, un vrai désir de changer la société, et puis en même temps cette maladie qui le ronge.
Alors c'est ça qui est assez dingue. On apprend par exemple que Paul Deschanel, ça a été un des premiers à vouloir lancer le droit de vote des femmes, par exemple, qui a mis derrière, on sait, des décennies à arriver finalement.
25 ans, le vote des femmes, hein, c'est De Gaulle, c'est 44-45. L'abolition de la peine de mort, cette proposition, pareil, c'est 81. Puis ainsi, comme ça, je sais pas combien de propositions qu'il a faites à ce moment-là et qui ont paru à tout le monde complètement...
Topique à l'époque.
Topique, révolutionnaire, et qui ont permis aux autres politiques de le ridiculiser, en fait. Parce que quand des gens ont des idées si belle mais si peu réaliste, alors on a vite fait
décalé par rapport à l'époque, on peut dire.
Décalé par rapport à l'époque, on a vite fait de leur donner un petit coup de pied au cul et pour les mettre dans le caniveau. Et c'est ce que le film, justement, c'est à ces attaques-là que le film répond aussi.
Alors c'est Clémenceau, à l'époque, qui est Premier ministre, qui est appelé le Tigre, lui. Et donc il y a les élections présidentielles qui arrivent en 1920. Donc Clémenceau est donné grand favori, évidemment. Et puis arrive l'outsider, Paul Deschanel, qui, contre toute attente, emporte l'adhésion à l'époque du Conseil. Parce qu'en fait, le président n'était pas élu par le peuple à l'époque, mais par un gouvernement, finalement.
Il était élu, oui, au suffrage indirect. C'était la troisième République. C'est-à-dire que les députés et les sénateurs se réunissaient au Congrès de Versailles, qui est un grand hémicycle, un peu comme l'Assemblée nationale, sauf qu'il y a 890 places. Là, entre eux, ils élisaient le président de la République. C'était aussi une manière de parler de cet entre-soi de la politique politicienne de la Troisième République, où il y avait une grande versatilité parce qu'il suffisait d'un bon discours pour emporter l'adhésion, et du coup, tout pouvait basculer très très facilement. Et c'est là où Deschanel l'a emporté, parce que c'est la répartie, c'est le bon mot.
La force des propositions.
Ouais. Ben oui, c'est-à-dire que Clémenceau, il était très proche des médias et de beaucoup, beaucoup de journaux. Donc déjà, il a beaucoup contribué au ridicule de Deschanel en l'affublant de beaucoup de caricatures et en essayant de détruire un petit peu son image auprès des Français. Et ça c'est vraiment quelque chose que Clémenceau a fait. Après, le film a fait quelques petites incartades, des petits pas de côté avec la réalité historique, parce que voilà, c'est une comédie, comme vous l'avez dit. Donc on a pris quelques libertés, on s'est amusé de voir cette rivalité entre ces deux hommes, et on a fait un peu truculer la réalité historique.
Facile d'obtenir l'autorisation, justement, de pouvoir tourner à l'Élysée, à l'hémicycle, de pouvoir où il a fallu trouver des astuces pour tourner ailleurs et reproduire ça, quoi, finalement.
Et écoutez, on a eu une chance incroyable sur la totalité de la réalisation du film. C'est que à chaque fois qu'on demandait quelque chose, on l'obtenait. Donc on essayait de, bien sûr, on n'a pas tourné à l'intérieur de l'Élysée, parce que tellement de choses sont classées secret défense ou quoi que ce soit. Puis de toute façon, tout le mobilier a été refait. Donc on a pris le parti. Le quai d'Orsay nous ouvrait ses portes. On a fait tous les intérieurs au quai d'Orsay. Même les intérieurs de la maison close sont des salles de bain du quai d'Orsay.
Et l'anecdote de la salle de bain du quai d'Orsay.
La salle de bain où vous verrez dans le film André Dussolier en Clémenceau, dans cette baignoire magnifique Art déco, la salle de bain du roi, Winston Churchill, tout en or. Winston Churchill est resté coincé dans la baignoire, a dû demander de l'aide aux deux pauvres gardiens qui gardaient la porte, et ils étaient bien embêtés d'aller le décoincer. Donc c'est la petite anecdote.
Bon, en tout cas, c'est un chouette film. Allez voir, vous apprendrez plein de choses. J'espère qu'il sera projeté peut-être dans des écoles, des lycées, des collèges, en tout cas. Voilà, c'est on va dire un président oublié qui va permettre de renaître un peu des mémoires et de remettre un peu les choses et l'histoire. Voilà.
Avec beaucoup d'humour aussi, ça, c'est la facture du film. Ouais.
Exactement. Le Trig et le Président, c'est au cinéma. Voici tout de suite la bande-annonce. Merci Jacques, merci Jean-Marc d'avoir été avec nous. Et puis on vous souhaite tout plein de spectateurs. En tout cas, on est derrière vous. À bientôt.
Merci beaucoup.
Merci.
Georges Clémenceau, candidat à la présidence de la République.
Monsieur Duchanel, vous avez devant vous le futur président de la République.
Vous avez entendu quelqu'un, Milan ?
Monsieur Clémenceau, vous avez gagné la guerre. Laissez-nous gagner la paix.
Monsieur Duchanel, je suis comme la guerre.
C'est vrai. Vous êtes fini.
Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Paul Duchanel, président de la République.
Étienne Radeau, reine d'Angleterre.
C'est pas tous les jours facile de changer la France.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé ce soir est consacré à TF1 avec le Mystère d'Aval, le film événement qui va être diffusé avec notre ami Liam Batty qui est notre invité. Bonjour Liam.
Bonjour Alain, bonjour.
Quel bonheur de te retrouver Liam dans ce rôle assez incroyable, complexe, quand t'as su que tu allais interpréter Jonathan Daval. Comment t'as réagi ?
Comment j'ai réagi ? J'ai réagi déjà, j'étais très étonné qu'on m'ait la chance de pouvoir passer un casting pareil. Et puis après, je me suis dit surtout qu'il allait falloir beaucoup travailler. Parce que il fallait faire un travail d'approche pour, si on voulait justement bien retranscrire le personnage ou bien le faire...
Bien sûr.
Bien incarné, allons-y, qui allait avoir un travail assez fou en très peu de temps, donc très étonné, puis après, surtout très pressé de travailler et d'aller au plus loin pour faire le mieux possible.
Alors, évidemment, quand c'est une histoire vraie, et on veut souvent ne pas trahir les protagonistes, comment tu t'es préparé ? T'as regardé des reportages, t'as regardé des archives sur cette histoire d'Aval, qui est en plus très récente, donc c'est encore dans la mémoire collective de tout le monde, hein.
Bah, il faut savoir que déjà, cette fiction, elle est basée sur l'enquête de Jean Mamory, sur le livre qui a été écrit par Christophe Dubois et Laurent Brignot, l'affaire Alexia Laval, la vraie histoire. Donc, déjà, tous ces gens en amont avaient fait un travail de fourmi, un travail méticuleux qui nous a permis d'avoir chaque détail, chaque réaction, chaque élément important, la compréhension de cette affaire, plus de détails qu'on aurait pu avoir uniquement avec les archives qu'on avait, mais également au début, il a fallu se fournir des archives que tous les Français ont pu voir quand ils ont suivi cette affaire. Et donc, essayer de décortiquer tout ce qui a été reportage, toutes les images qui nous ont été fournies ou qu'on pouvait avoir par rapport à Internet.
Alors, on apprend plein de choses en regardant ce film. Et évidemment, on apprend, on sait tout ce qu'il a avoué plusieurs mois plus tard. La découverte macabre du corps d'Alexia. Mais surtout, on apprend que mine de rien, la police était quand même sur ses traces depuis plusieurs semaines. Et leur intime conviction était quand même la culpabilité de Jonathan. Hein.
La police était... Je vais pas parler à leur place. J'ai eu la chance de rencontrer les vrais enquêteurs. Et ils m'ont expliqué leur process. C'est ça qui a aussi été très intéressant. Ils avaient une intime conviction. Mais il faut savoir que dans une enquête, avoir une conviction, ça ne suffit pas.
Mais oui.
Il faut avoir des preuves. Et donc, ils ont dû réfréner leur intime conviction parce qu'on peut pas accuser à tort sans preuve sur une enquête. Parce que si jamais ils décident de faire immédiatement sur une conviction, ça c'est très technique, une garde à vue, ils ont droit à 48 ou 72 heures. Par contre, s'ils n'ont pas de preuves à cette garde à vue, ils n'auront plus droit à ces 48 ou 72 heures derrière. Donc, ils étaient obligés de réunir toutes les preuves possibles et imaginables pour pouvoir être sûr de faire la garde à vue au bon moment et d'avoir les bons éléments au bon moment.
Ouais, c'est ça qui est assez dingue. Enfin, on apprend en tout cas effectivement beaucoup de choses. Alors, tu partages l'affiche avec quelqu'un qui t'était pas inconnu, puisqu'Alexia est jouée par Maud Baker. Même si vous avez partagé, je crois, très peu de scènes dans Demain nous appartient. En tout cas, voilà, c'est un grand plaisir de vous voir tous les deux à l'écran aussi.
Bah, ça a été un plaisir pour moi et l'anecdote si on la pousse un peu plus loin, c'est qu'on n'a jamais eu de scène ensemble sur de nos appartements.
Mais c'est bien ce qui me semblait.
On s'est croisés beaucoup. Voilà, c'est anecdotique de pouvoir se retrouver parce qu'on se connaissait très bien quand même avec moi, mais on s'est retrouvés, on a pu enfin jouer ensemble sur un autre projet. Et puis Maud, en plus, c'était une aide incroyable. Enfin, de toute façon, en général, Maud est incroyable et a une énergie incroyable et elle soutient beaucoup sur tous les projets. Comme Michel Bernier, qui a été aussi incroyable.
Ouais, j'ai remangé, il y a un casting de fou autour de toi.
On a échangé tous. On en a une chance. Et Christophe Lamotte a été très, très sobre et très fort. On a été magnifique, on a réagi. Mais oui, ça m'a fait plaisir de retrouver Maud. Ça nous a fait rire et on s'est retrouvés sur quelque chose de différent.
T'as le souvenir d'une scène un peu plus compliquée pour toi, qui a été un peu plus difficile, peut-être, à jouer?
Très intéressant comme question. C'est la première fois qu'on la pose.
C'est vrai?
Je veux dire. Ouais, c'est vrai. C'est la première fois qu'on la pose.
Ouais, bah, quand on joue un personnage comme ça, c'est toujours la question que je me pose. Je me dis, est-ce que, voilà, à un moment donné, tu sais, tu t'imprègnes peut-être de la personnalité en préparant, voilà, et puis, bah, à un moment donné, tu peux avoir des scènes, toi, en tant qu'homme, tu vois, qui peuvent être plus difficiles, quoi, tu vois.
Voilà, je vais pas te mentir, c'est la reconstitution.
Ouais. C'est terrible.
La reconstitution dans la maison et dans la forêt. Alors, faut savoir que la reconstitution dans la maison peut passer très vite à l'écran. Elle est déjà très dure humainement hein, à regarder. Et c'est un choc. C'est quelque chose qui est très dur à faire déjà. Donc à regarder, à faire. Mais sauf que même si elle passe très rapidement, la première partie de la reconstitution qui est dans la maison, on l'a tournée pendant 4h30, 5h. Donc c'est-à-dire que pendant 4h30, 5h, devoir être dans cet état-là, et puis de conclure en plus en traînant un corps, qui sort d'un berlingot, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment, au moins ça aide à imprégner bien sûr, mais c'est très dur psychologiquement de tenir autant de temps et d'essayer d'être machinalement de le faire, mais tout en ressentant les choses qui étaient pour ressentir. Non, ça a été les deux scènes les plus dures, les deux scènes de reconstitution. Pas les plus dures, non, celles qui m'ont plus marqué.
Oui, pour toi les plus humainement peut-être difficiles à vivre.
Exactement.
On va évoquer tes projets juste avant de se quitter. Alors, Rémi pourrait-il repasser le bout de son nez un jour dans Demain nous appartient? C'est tout ce que les fans demandent en tout cas.
Ça, c'est une question par contre qu'on m'a déjà posée.
Peut-être, j'imagine, peut-être. Parce que Soraya, elle est toute seule quand même là.
Ah bah oui, hein, elle doit être triste. Peut-être, il n'y a pas eu de départ définitif.
Mais c'est pour ça. Cavale, tout espoir est permis.
Il y a une cavale et il y a surtout eu, après cette cavale, des projets comme on peut le voir aujourd'hui. Ont été faits pendant ce temps-là et d'autres projets qui sont en train de se faire. Donc, c'est une hypothèse, c'est à soulever, mais en tout cas, rien n'est acté.
Bon, eh bien écoute.
Aujourd'hui, rien n'est définitif.
En tout cas, tu le sais, t'es le bienvenu quand tu souhaites. Dans Chute, on écoute ta télé pour en parler. Voilà, Liam.
Bah, merci beaucoup, en tout cas, de m'accueillir à chaque fois.
Merci à toi. Et puis, on va se quitter avec tout de suite la bande-annonce. Le mystère d'Aval, c'est ce soir à 21h10 sur TF1. À bientôt.
Votre femme est une joggeuse et ce matin, elle est partie courir seule.
Elle est toujours pas rentrée.
Vous pensez que votre femme a disparu?
Oui.
Alexia Daval, disparue depuis ce matin à 8h.
Vous la retrouvez? C'est ma petite fille.
On va tout faire pour vous la ramener, madame Pouillou.
Ici!
Cet après-midi, nous avons découvert un corps sans vie. Tout porte à croire qu'il s'agit d'Alexia.
Notre coup de cœur télé consacré à J'irai au bout de tes rêves. C'est donc la fiction événement d'M6 qu'on va découvrir cette semaine. J'ai eu la chance de l'avoir en avant-première au Festival de Fiction Télé de La Rochelle avec Stéphanie Pilonka qui est notre invitée aujourd'hui pour en parler, la réalisatrice. Bonjour Stéphanie.
Bonjour, merci de nous accueillir tous les deux. On est heureux avec Samuel Alain Bidbol.
Qui est notre invité également. Bonjour Samuel. Bonjour. Tu vas devenir un sociétaire de notre émission maintenant.
Oui, beaucoup, oui. Et franchement, je dirais un truc aussi. Merci beaucoup de nous inviter aussi avec ma petite Stéphanie Pilonka.
C'est vraiment un film qui transpire la sincérité. On voit vraiment que voilà, les comédiens entre eux sont vraiment attachés les uns aux autres. Il n'y a rien de fake en fait et on ressent bien cette patte un peu du documentaire, mais là vraiment tournée vers la fiction et une fiction très réussie.
Écoutez, merci beaucoup. Non, ça a été une joie, une chance de pouvoir tourner avec Samuel, Guillaume de Tonquédec, Christiane Arelli, Camille Lou évidemment, Walidia et tous les autres. Et ça a été une chance surtout que, enfin, je suis très honorée que Samuel m'ait offert sa confiance. Et c'est une joie de le diriger pour son premier grand rôle, premier rôle. Hein, c'est ça? Ouais. Il y a beaucoup, une belle alchimie évidemment parce que Samuel, il est sans phare, il est sans mascarade, il est cash, il donne tout. Et c'est tellement rare les gens qui donnent tout maintenant. Il fait pas semblant.
C'est vrai, je fais pas semblant, c'est qu'il est vrai. C'est vrai que dès que j'ai du travail à faire, c'est je vais d'avant quoi. C'est toujours travailler encore plus loin, et toujours travailler pour nous quoi.
Il y a longtemps que t'as envie de devenir comédien, Samuel?
Oui, depuis tout jeune, depuis tout bébé, ouais.
Qu'est-ce qui t'a donné envie, justement?
C'est un combat pour moi de faire ces films-là, parce que c'est quand même, c'est depuis, ça m'a donné plus de joie, plus que du bonheur, quoi, de faire ces films, quoi, de faire plus de films avec Stéphanie Pienka, surtout.
Alors, grand public, t'as évidemment découvert dans le rôle de Rémi, dans Plus belle la vie, et depuis, on sent vraiment une réelle affection du public, justement, à chaque fois qu'il te retrouve dans un rôle, on t'a vu dans Meurtre en pays Qatar, et là, dans ce téléfilm de Stéphanie. Stéphanie, on parle de l'histoire en quelques mots, déjà, pour commencer. On plante le décor, ensemble.
Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme qui travaille dans un CDI, dans un petit village, une petite ville de province. Voilà, il s'appelle Antoine, et il va croiser le chemin d'une jeune femme qui s'appelle Bianca, et l'un et l'autre vont se sauver. En fait, cet Antoine-là, avec tout son amour, sa sincérité, sa pétillance et sa spontanéité, va quelque part sauver une fille qui ne trouvait plus son chemin, qui ne trouvait pas son chemin et qui avait besoin d'être éclairée dans sa vie. Et c'est le rôle, voilà, qu'incarne Samuel. C'est une histoire plus forte qu'une histoire d'amour, une amitié particulière, une amitié pas comme les autres, qui va tout emporter sur son passage, c'est ça ?
C'est ça, oui. C'est un sauveur, même.
Voilà. Camille Lou, ta rencontre avec ? Parce qu'on a l'impression que vous ne vous quittez plus, maintenant.
Non, pas du tout, parce que c'est vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, surtout. Franchement, Camille et moi, on se donne beaucoup de confiance, quoi. Vraiment. Et pour moi, c'est comme une tour de cœur, pour moi.
Il y a des très belles scènes entre Camille et toi, et entre Guillaume, qui joue ton père, Guillaume de Tonquédec, qui là aussi est d'une sincérité complètement dingue dans le rôle de ton papa. T'as été incroyablement ému, je crois, très souvent par les scènes que tu as pu t'offrir avec Guillaume aussi.
Aussi, ouais.
C'est le meilleur papa du monde, en fait.
C'est, ça, c'est sûr, ouais. C'est vraiment le meilleur petit papa du monde, ouais.
Ben voilà, ça c'est dit. Il y a des scènes qui t'ont bouleversé, toi, quand tu les as tournées, Stéphanie ?
Ben moi, je derrière la caméra, moi j'ai pleuré tout le temps, quoi. Tout le temps, parce que Samuel, c'est de l'émotion brute. C'est un diamant, c'est de l'émotion à l'état pur. Il donne tout. On peut pas rester insensible, on peut pas rester dans sa fonction, même si on doit se fliquer, se blinder, parce qu'il y a un film à rendre, des séquences à rentrer. Mais non, il y a eu beaucoup, beaucoup de larmes derrière. Vraiment, et ça, c'était fabuleux, très, très beau.
Il paraît que tu pleures sur commande.
Oui, c'est vrai. Oui.
Mais il paraît que quand t'as dit donne tout, t'es capable de pleurer, mais sur commande.
Oui, c'est ça. Sur commande.
Moi, j'étais heureux pour toi, Samuel, parce que il y a un point commun entre Antoine et Rémi, que t'as incarné en Plus belle la vie, c'est que t'as retrouvé une grande comédienne, Annie Grégorio, oui, qu'on adore tous, et j'imagine que les retrouvailles avec Annie ont dû être joyeuses.
Ah, beaucoup, ouais. Je m'aime beaucoup être magnifique, on va dire, avec Annie Grégorio et moi, parce que c'est vrai que on est toujours aussi une plus confiance, c'est une réalité aussi.
Et moi, Samuel, je l'ai rencontré à Luchon, où vous étiez d'ailleurs présent. Il était sur scène avec moi lorsque j'avais reçu le prix du coup de cœur du jury pour Apprendre à t'aimer. Et j'avais pris l'avion avec lui, j'avais voyagé avec lui, et je lui ai dit sur scène à Luchon, il y a des images, hein, où je lui ai dit « je vais t'écrire un rôle ». Il y a des images de ça, tu te rappelles ?
Et moi, je m'en souviens, j'y étais.
Je suis très bien, ouais.
Ça, je vais t'écrire un rôle, et puis voilà, yalla, le rôle est là.
Voilà,
et on l'a tourné. Voilà, alors il faut saluer, bien entendu, l'engagement de M6 et de mes producteurs, d'aller au-delà de tout ça et de pouvoir nous donner la chance de faire des films sur la différence.
Comment vous sentez, là, tous les deux, là, quelques jours de la diffusion, où le grand public va pouvoir enfin le découvrir après tout le travail qui a été fait, Samuel ?
Alors moi, déjà, avec beaucoup d'émotion. Déjà, et surtout, c'est vrai que Stéphanie, c'est une plus grande réalisatrice au monde. C'est vrai que ça me touche vraiment, quoi.
Stéphanie ?
Maman, c'est beaucoup d'émotion de le livrer au public, mais je suis très excitée. J'ai peur, bien entendu, j'ai le trac, mais j'ai confiance. Parce que je me dis, voilà, peu importe ce que va vivre le film, comme le dit si bien Samuel, si ça peut changer le regard de certains, on aura gagné. Et je crois qu'au-delà de la performance, au-delà de l'audimat, c'est un film citoyen qui délivre un message humble, hein, mais un message qui peut-être est un message politique, un message citoyen, où on veut faire comprendre des choses aux gens, que la différence, en fait, c'est pas une entrave. Je sais que ce film trouvera son public, et voilà, le public en fera bon usage, j'espère, et nous, on veut juste partager, voilà, partager une émotion, un témoignage, et une jolie histoire qu'on s'est racontée et qui nous a fait du bien.
C'est... Tu devrais endosser le rôle d'Antoine pour une suite. Est-ce que toi, t'es partant? Parce que nous, on aimerait bien justement voir comment Antoine et Mayan, dans la vie, vont évoluer aussi.
Oui, alors, moi je serais vraiment partant, oui, mais même beaucoup.
T'attendrais que ça.
C'est un cadeau pour moi.
Stéphanie ?
Ce serait une bonne idée. Ils vont devenir quoi, Antoine et Mayan ?
On a envie de le savoir, en tout cas. Vous aurez envie aussi de le savoir, chers auditeurs, quand vous allez voir le film cette semaine. Ça, c'est une certitude.
Merci pour ton accueil, merci pour tes mots.
J'irai au bout de mes rêves, c'est donc demain soir à 21h10 sur M6. Et puis on vous souhaite évidemment plein de bonnes choses, puis d'aussi belles audiences que pour Apprendre à t'aimer, que si vous ne l'avez pas vu, vous l'avez encore disponible sur Salto, par exemple. Donc n'hésitez pas à aller vous jeter sur ce très beau film avec Harry Habitant et Julie de Bonin également. Merci à beaucoup Stéphanie, merci Samuel.
Merci beaucoup de ton accueil.
Merci et puis bon film, hein, j'ai envie de vous dire.
Dégagez là, vous dégagez, vous avez rien d'autre à foutre, vous dégagez, tu dégages, dégagez, ça je le garde, tu vois. C'est bon, j'ai la preuve sur ce téléphone, moi, tout va bien, dégage.
Ça va Antoine? Tu veux que j'appelle Madame Roux?
Non.
Quelqu'un de ta famille?
Non, j'en doute pas.
Regarde, écoute-moi, moi quand j'angoisse comme ça, je respire, je prends mon souffle, je bloque et je souffle.
Notre coup de cœur télé cette semaine est consacré au mystère de la Duchesse. C'est un nouvel opus qui nous attend, toujours produit par Sylvette Friedman. C'est le 7e, tourné dans notre belle région, dans les Charentes. Et on a toute une partie de l'équipe qui est avec nous aujourd'hui pour en parler. On va commencer par la productrice fidèle de notre émission, Sylvette Friedman. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Sylvette. Alors, elle n'est pas toute seule, hein. Sylvette, elle est venue en force. Elle nous a amené la réalisatrice Emmanuelle Duberger, qu'on connaît très bien aussi. Bonjour, Emmanuelle.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et puis trois des comédiens sont avec nous. Alors on a Elisa Servier qui est avec nous. Bonjour Elisa.
Bonjour, bonjour.
Que beaucoup, beaucoup de monde va être content de voir à la télé. Non mais depuis le temps on se dit mais Elisa Servier, mais franchement. Et alors Patrick Reynal évidemment qui est avec nous aussi. Bonjour Patrick.
Mais bonjour à vous.
Merci d'être là. Et puis alors le beau gosse, il a été pris pour ce film. J'ai été quasiment le premier à savoir qu'il allait tourner ça. C'était au Festival de Luchon, je me rappelle, l'année dernière. Il m'a dit écoute, je démarre le prochain Mystère. J'ai dit Mystère, ça me parle ça. Jérémy Vanster qui est avec nous. Bonjour Jérémy.
Salut Alain.
Merci d'être là. Tous les cinq, on va planter un petit peu le décor de ce nouvel opus. Donc ce coup-ci en Charente, hein, au lieu de la Charente-Maritime, mais on reste chez le voisin. On s'en va pas très très loin, hein, quand même, Sylvette.
Non, on est en Nouvelle-Aquitaine, en effet. On est en Charente, et un endroit que je connais très bien aussi, que j'apprécie beaucoup pour les paysages. Et puis on a retrouvé aussi plein de techniciens avec lesquels on a eu l'habitude de travailler sur les précédents.
Donc, vous avez tourné quelques scènes des Mystères des Majorettes d'ailleurs en Charente, hein, je crois.
Oui, en effet. Pas longtemps, on avait tourné 3 jours en Charente, mais on avait effectivement fait un très beau décor dans les vignobles de Charente. Voilà.
Je me souviens de ça. Alors Emmanuel, à la réalisation, alors moi j'ai une petite anecdote avec Emmanuel, c'est que la première fois qu'on a été sur les plateaux de Plus Belle la Vie, on a été reçu, mais comme jamais quasiment sur un plateau, par Emmanuel, qui nous a tout montré. Elle nous a montré comment elle faisait tac 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 avec toutes ses caméras et tout, mais incroyable. Elle va à une vitesse, au niveau, elle prémonte, elle réalise en même temps. Enfin, elle est incroyable cette fille.
Merci, mais je te prends comme agent, Alain, c'est pas possible.
Écoute, moi j'ai adoré cette expérience parce que c'est vrai que sur une quotidienne, on voit le rythme effréné. Et là, évidemment, là je t'ai vu sur les Mystères de la Duchesse, j'ai eu l'occasion d'aller sur le tournage. Alors là, le rythme est quand même déjà un petit peu plus lent, t'as plus le temps quand même malgré tout. Mais faut que ça y aille quand même, hein.
Oui, il faut de toute façon imprimer du rythme, histoire que même dans en cours de la journée de tournage, on s'endorme pas et que il faut entraîner tout le monde avec soi. Moi, je trouve que c'est un des rôles essentiels du réalisateur. Donc, il faut entraîner à la fois l'équipe technique, qui sache où on va, comment on y va, et puis entraîner toute la belle troupe de comédiens que j'avais avec moi.
Ah oui, une belle troupe de comédiens, ça c'est clair. Alors on va planter un petit peu le décor. On va retrouver Lucien, qui est détective, qui a quitté la police. On découvrira pourquoi dans le film, vous le verrez. Et puis accompagné avec Laurie, qui joue Laure Pester, puisque quand elle est comédienne, c'est Laure Pester. Et on a l'occasion de retrouver ce duo qui va mener l'enquête sur le crime en fait d'un mari d'une duchesse, avec une grande différence d'âge entre les deux. Alors est-ce que ça aura un rapport ou pas? C'est ce qu'on verra tout au long de cette enquête. Mais qu'est-ce qui t'a plu en premier, Jérémy? Dans le rôle de Lucien, notamment.
Alors, dans le rôle de Lucien, comme vous l'avez vu en avant-première, c'est un personnage qui est très éloigné de ce que je peux faire d'habitude, déjà, dans lequel on n'a pas l'habitude de me voir. C'est-à-dire avec de l'humour, sur la réserve, un peu timide, mal à l'aise, qui a quelque chose en profondeur à régler. Donc, il y a différentes strates dans ce personnage qui m'ont beaucoup plu de le construire tel quel. Avec Sylvette et Emmanuel, on a pas mal discuté d'en faire un espèce de dandy anglais avec des gants gantés. On sait pas de quel siècle il pourrait débarquer. Et je trouve ça très chouette parce que ça lui donne un côté très atemporel. Et puis moi, ça m'a permis de me plonger dans ce costume en essayant des choses nouvelles. Voilà. Et c'est vrai qu'on est comédien pour ça. On est comédien pour pouvoir changer de prénom, changer de costume et essayer d'incarner un personnage de manière différente. Et ce téléfilm m'a permis vraiment de développer, de construire une nouvelle couleur de comédien. Et ça, c'était très agréable.
Elisa, qui joue l'épouse du maire, du coup.
Absolument. Et tous les personnages ont des fêlures. Il n'y en a pas un qui n'a pas de fêlure. C'est ça qui est très touchant, très joli, très humain.
Oui, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est vraiment chaque personnage a sa place. On y retrouve des comédiens comme Nicolas Van Bereven, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, qu'on retrouve aussi dans cette fiction. Voilà, il y a plein de beaux mondes. Et puis Ludmila Mikael, qui est assez incroyable dans le rôle de la duchesse. Quel bonheur de voir Ludmila aussi.
Oui, Ludmila, on s'était rencontrés sur une grosse série magnifique, mais ça remonte à il y a 15 ans. Donc c'est pas revu depuis 15 ans et c'était un vrai vrai bonheur. Quand on a cherché notre duchesse, on l'a pas cherché. On a tout de suite évoqué avec Emmanuel le nom de Ludmila et ça s'est imposé de soi. Donc on a eu le bonheur qu'elle accepte immédiatement et avec aussi beaucoup de bonheur. Et vraiment, c'était une marque de confiance de sa part d'accepter de faire ce rôle.
On va écouter un petit extrait et on va revenir dans un instant. On va revenir, c'est une séquence un peu compliquée, Jérémy, on va y revenir dans quelques instants, parce que je crois que dans ce film, tu prends cher à un moment donné, mais on va y revenir, à tout de suite.
Et puis on a une nouvelle enquête, un meurtre au manoir.
Il était marié depuis un an à la duchesse, Louise de Crémier, 70 ans et propriétaire du manoir.
Lucien Labégaré, agent privé de recherche et de renseignement.
Capitaine Arthuis, Cyril Le Goff, ça vous dit quelque chose ?
Ouais, c'est le connard qui a épousé la vieille, ouais.
C'est à lui qu'appartiennent les serres à l'entrée de la ville. Vous ne pouvez pas les manquer.
Dans ma vie, j'ai jamais dénoncé personne. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé.
Allez, de retour, les mystères de la Duchesse, c'est samedi sur France 3. Alors, il y a une séquence que vous ne pourrez rater, évidemment, parce que s'il est sur la réserve, Lucien, à un moment donné, il va prendre cher, on vous dit pas par qui, ni comment, mais on va s'attaquer à ses bijoux de famille, en gros.
Obrigado. En portugais, ça veut dire merci. Et vous comprendrez. Alors évidemment cette scène est très drôle et comme on le disait, là, on vient de le dire ensemble, elle sera sûrement dans la bande-annonce et j'en suis ravi. Et je parlais tout à l'heure de la comédie qu'on peut aussi retrouver en plus de l'émotion et comme le disaient Patrick et Elisa sur la fragilité de tous les personnages qui sont incarnés dans le téléfilm. C'est vrai que l'émotion est aussi très présente et la comédie aussi. Et c'est vrai qu'on a pu s'amuser. Et puis on nous a Emmanuel la première nous a encouragé, nous a laissé proposer des choses dans cette complicité et de pouvoir justement aussi mettre des petits moments de respiration qui étaient un peu plus légers. Et ça c'était super à faire. Voilà, on s'est régalé.
Alors Sylvette est une fidèle avec tous les gens avec qui elle travaille. Comme dans tous ses films, il y a une musique qui est dingue. La musique de David Imbeau, tu lui fais faire une création pour chaque film.
David Imbeau, c'est une magnifique découverte. J'ai rencontré ce compositeur grâce à Lorenzo Gabriele, qui est un de mes fidèles, n'est-ce pas ? C'est un réalisateur avec qui j'ai fait beaucoup de films. Et donc, à chaque fois, effectivement, j'impulse à David, évidemment en parlant avec le réalisateur ou la réalisatrice, un genre de musique. Et après, à lui de nous faire des propositions. Et à chaque fois, je lui fais faire, enfin il nous propose une composition mais chantée avec quelque chose qui est très romanesque en général et vraiment je suis moi toujours époustouflée par ce qu'il propose et là effectivement il nous a fait des propositions et des compositions que je trouve magnifiques et qui moi m'émeuvent quoi, énormément.
Autre fidèle, même si Lorenzo n'a pas réalisé, il a participé au scénario avec Philippe Ledem, oui. Qui lui aussi est un fidèle avec qui tu travailles, notre ami Philippe qu'on aime beaucoup aussi et qui vient à chacune des avant-premières qu'on peut organiser. Et donc Philippe a écrit cette très très belle histoire aussi.
Pour rebondir sur ce que dit Sylvette, c'est que ce tournage, et vous le savez, Elisa et Patrick, Emmanuel forcément, était un vrai bonheur chaque jour. On se levait le matin avec Laurie, on en parlait très souvent tous les deux. On était très heureux de venir sur le plateau, on était très heureux de retrouver nos camarades de jeu, avec qui on riait autant qu'on pleurait. Mais on a beaucoup ri. Emmanuel, c'est justement, avec beaucoup de fermeté et beaucoup de délicatesse, une main de fer dans un gant de velours, ça lui va très bien. Et c'est-à-dire qu'on arrive à travailler dans le bonheur, à faire notre journée, mais toujours avec beaucoup d'humour au moment où on peut le faire et de rester dans
sérieux les... quand il faut aussi.
Voilà, et être sérieux quand il faut, ça c'est on sait le faire, on sait le faire. Voilà, on sait rigoler quand on a les 5 minutes qu'il faut. On a un petit peu de lumière à faire, on sait que c'est la bonne blague, c'est pour le moment, c'est maintenant, c'est pas après ni avant. Mais on sait le faire, voilà.
Laurie à côté de toi a des tirades absolument impressionnantes. Elle t'a impressionné parce que tu la connaissais pas, Laurie. Avant, moi, elle m'a épaté parce que dans ce film, elle a un côté hyper solaire. Elle dégage une émotion assez dingue vis-à-vis de son histoire, parce que la particularité des Mystères 2 aussi, c'est qu'on découvre vos histoires personnelles à travers le scénario. Je l'ai trouvée mais vraiment épatante, quoi.
Tout à fait, moi aussi. Je trouve qu'elle a construit son personnage de manière. Elle est très droite, je trouve. Ce personnage est très droit. Il est implacable par moment, et j'aime beaucoup ça, c'est que c'est une fine lame, et j'ai beaucoup aimé la manière dont tu as proposé son personnage. Je trouve ça très juste et différent aussi de des choses dans lesquelles j'ai pu la voir. Et le duo du coup avec Lucien fonctionne bien, parce que lui il est un peu plus bancal, il est un peu plus chaloupé, je dis, par moment. Un coup tout va bien, un coup tout va mal, et elle reste très droite tout en portant ce bébé de très belles manières, et je trouve ça vraiment très joli. Je trouve que c'est un très joli téléfilm.
En tout cas, on a passé un très très bon moment en le voyant, et vous allez certainement passer un très très bon moment samedi en le regardant sur France 3. Emmanuel, est-ce qu'il y a eu un moment particulier à nous raconter sur une scène, alors à part celle où on était là, nous? C'est à la maison de chasse, voilà, c'est la seule indication qu'on va dire, on était à la fin. Donc moi je sais qui est le ou la coupable, mais je dirai rien, même sous la torture.
Surtout pas, il faut pas dévoiler ça, il faut que tout le monde regarde jusqu'au bout. Non, il y a eu effectivement, je dois avouer, le coup de genou avec Jérémy. Ça restera quand même un immense souvenir, parce que bon, on savait, on l'a lu, et même déjà à la lecture entre comédiens à plat comme ça sur une table, déjà ça faisait rire tout le monde. Donc on était assez confiants sur la façon dont ça allait être ressenti, et il n'y a pas d'erreur. Là, la salle a vraiment beaucoup beaucoup réagi à ce moment-là, et c'était assez jubilatoire.
Bon, alors écoutez bien, toute l'équipe, je prends que 10% sur ce que je vais dire là, d'accord? C'est pas cher, ça va, Elisa?
Non, c'est pas cher, hein, déjà.
Sur chacun, attention. Sylvette a commencé, tout doucement, à amorcer des suites. Donc elle a fait les Mystères du Bois Galant, et c'est devenu les Mystères de l'École de Gendarmerie. Donc évidemment, ma question, est-ce que tu as envie de retrouver ce duo avec Laurie et Jérémy Binster pour peut-être faire une suite? Est-ce qu'en tout cas ça t'a donné envie, ce que t'as vu pour ce premier opus?
En fait, c'est la question piège, parce que bien évidemment j'ai envie de retrouver des duos qui ont bien fonctionné, qui ont résisté à tout ce qu'on leur a fait faire, hein, parce que c'est quand même toujours très compliqué de rentrer dans des personnages. Alors le problème, c'est que ce n'est pas moi qui décide, c'est la chaîne, et la chaîne, sur le principe des Mystères, ne souhaite pas reprendre les duos, et ils veulent toujours des nouveaux duos. Bon.
Oui, mais ton pouvoir de persuasion a fait que t'as pu au moins le faire une fois déjà.
J'ai fait une fois, c'est vrai, mais j'ai drôlement chalupé pour y arriver. Je raconterai pas la cuisine, mais effectivement, ça a été compliqué, et ça a pris plus de 2 ans quand même pour pouvoir arriver à mes fins. Voilà.
En tout cas, toi, à titre personnel, s'il n'y avait pas la chaîne, t'as envie de retrouver ce duo, ça c'est une certitude.
Je le dis pas parce que Jérémy est là, oui. J'ai vraiment envie de les retrouver, parce que je sais déjà ce que je peux leur faire faire, et je sais déjà même ce que je peux leur proposer comme sujet suivant.
Oui. Bon, eh bien, on va suivre déjà en tout cas les Mystères de la Duchesse, c'est samedi sur France 3, ne le ratez pas. C'est un très très beau téléfilm, en tout cas de cette collection qu'on aime et qu'on soutient à chaque fois, bien évidemment. Merci infiniment à tous les 5 d'avoir été avec nous pour en parler. Les Mystères de la Duchesse, c'est samedi, et c'est à 21h10 sur France 3. Merci à tous les 5.
Merci Alain.
Merci Alain.
À bientôt.
Merci, à bientôt.
Merci beaucoup.
Dans un instant, page spéciale Festival de la Fiction Télé avec Sandrine Bonner et Stéphane Strano, le président du festival. Alors à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. télé, le talk show radio.
Nouvelle édition du Festival de la Fiction Télé de La Rochelle. Et on a la présidente du jury avec nous, Sandrine Bonner. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Alors, impression à 24 heures justement de cette édition. Je sais que vous êtes une amoureuse de cinéma et de télévision et que vous allez certainement mordre à pleines dents ces 5 jours de fiction qui s'ouvrent à vous.
Absolument. Donc, nous avons beaucoup de films à voir. Nous en avons déjà vu un paquet de tout format. Donc, je me réjouis de partager toutes ces belles émotions avec mon jury.
Dans les fictions, on a tous les genres qui sont représentés à La Rochelle, que ça soit les fictions courtes, que ça soit les séries, que ça soit les téléfilms. On attend vraiment beaucoup de belles histoires, beaucoup de rendez-vous pour le public. C'est un festival énormément tourné vers le public, le Festival de la Fiction Télé. C'est aussi ce qui vous a plu quand Stéphane vous a proposé la présidence?
Oui, c'est très populaire puisqu'on sait bien que la télévision, contrairement au cinéma, la télé vient chez vous alors que le cinéma, vous sortez de chez vous pour aller voir un film de cinéma. Donc la télévision est très populaire pour ces raisons-là. La télévision, je trouve, progresse parce que je ne cacherai pas mon côté un petit peu sceptique de la télé parfois. Je trouvais que la télévision, à un moment donné, était pas toujours très bonne. Et je trouve que on a de meilleurs films aujourd'hui. Je pense que c'est grâce aux plateformes, peut-être aussi lié au Covid.
Il y a une exigence de plus en plus forte sur la fiction télévisée.
Absolument. Il y a une exigence beaucoup plus forte. Il y a des séries qui sont absolument formidables. J'en ai d'ailleurs tourné une pour TF1 qui s'appelle Les Combattantes. Magnifique.
Ça va être l'événement de TF1 d'ailleurs qui sera présenté pendant ce festival.
Ah, tout à fait, oui. C'est une très très belle série. Voilà, je pense que ça va être très agréable.
Un bel amusement. Quel genre de présidente vous allez être?
Ouais, déjà, nous allons avoir des discussions parce qu'il y a plus d'une quarantaine de films. Donc il y a des films qu'on est obligé de voir en amont puisque 5 jours...
C'est impossible, oui.
5 jours, on ne peut pas voir une quarantaine de films. Donc en fait, ce qu'on va faire, enfin, ce que je vais demander c'est à mon jury, c'est d'avoir des moments de discussion, peut-être en ayant vu une dizaine de films, de commencer à...
Des points réguliers.
Voilà, des points réguliers, parce que déjà pour la mémoire, hein, il faut se souvenir de tout. Et puis, alors comment je vais être, vous savez, c'est comme la démocratie, hein, c'est... Pour avoir présidé plusieurs fois, je me suis aperçu que quand c'est à l'unanimité, ou presque, vous ne pouvez rien faire. Enfin, le pouvoir du président, c'est vraiment quand c'est très serré.
Ouais.
Voilà, donc là, j'interviendrai sur mes propres choix. Mais en tant que présidente, c'est d'écouter son jury et que chacun s'exprime. Et puis le président n'a pas toujours raison.
En tout cas, on va se retrouver à partir de demain au pied des tours de La Rochelle pour 5 jours consacrés à la fiction. Ça va être un vrai bonheur de vous avoir parce qu'avoir une présidente qui va toujours aussi bien du côté télévision, cinéma, qui parcourt tous les styles aussi de comédie. Parce que voilà, il y a des comédies dramatiques. Moi, je me souviens de beaucoup de films avec vous et il y a vraiment plein de genres différents que vous avez explorés dans votre métier de comédienne. Donc voilà, je trouve que Stéphane a fait un très beau choix en tout cas.
Ben, je vous remercie beaucoup. Et c'est vrai que de passer du cinéma à la télévision, de la télévision au cinéma, c'est formidable. Et puis, vous avez parfois des films de cinéma qui seraient plus pour la télévision et des films de télévision plus pour le cinéma. Donc, ça ne veut rien dire aujourd'hui.
La frontière est mince.
Voilà, tout à fait.
Merci Sandrine.
Merci à vous.
Chut, on écoute la télé, spécial festival.
Et on va terminer évidemment cette émission comme il se doit avec cette nouvelle édition du Festival de la Fiction Télé. Après Sandrine Bonner, eh bien c'est le président du festival qui est avec nous pour terminer. Stéphane Strano, bonjour Stéphane.
Bonjour Alain, merci de m'accueillir sur ton antenne.
Écoute, on est toujours très heureux de t'avoir. Le festival rayonne maintenant partout en Nouvelle-Aquitaine. On a cette chance-là avec l'objectif tourner fiction aussi, de faire tourner des fictions tout au long de l'année, comme il y a eu à Bordeaux par exemple l'année dernière. Et le festival s'ancre une fois de plus à La Rochelle pour une nouvelle édition qui va retrouver son public en masse. C'est un vrai retour aux sources pour le festival cette année, hein Stéphane?
C'est un bonheur immense de retrouver La Rochelle sans contrainte, de retrouver le festival plus fort, plus libre, de retrouver l'ensemble des festivaliers qui viennent en nombre et de rencontrer enfin le grand public après ces années où on a beaucoup regardé la télévision, mais on a peu vu les étoiles qu'on aime en vrai et elles seront toutes sur le grand port de La Rochelle pour des échanges, des rencontres et énormément de films.
Et oui, et le jury arrive dès demain, présidé par Sandrine Bonnaire, comme on le disait à l'instant, et elle va être bien accompagnée, hein, on peut le dire, Sandrine Arnaud-Mercadier, Louise Monod, David Bayot, qui vient de faire son grand retour dans Plus belle la vie d'ailleurs, et qu'on adore dans les crevettes pailletées.
Ils vont être vraiment
bien entourés.
Gaëlle Chelet, productrice, Brice Davoli, compositeur, et effectivement Sandrine Bonnaire qui nous fait le grand honneur de présider cette édition 2022 et de dessiner à travers cette sélection incroyable, un palmarès, mais ça, c'est pour la fin de la semaine.
Exactement.
Pendant ce temps,
on va déguster déjà l'édition.
On va déguster l'édition. Exactement.
Exactement. Nat, d'aller vous retrouver demain, puisque cette édition du Festival de la Fiction, on va vous la faire vivre, évidemment, tout au long de la semaine, sur nos réseaux sociaux, notamment notre page Facebook, avec plein de lives, avec plein de surprises, évidemment, des artistes qui vont être là en nombre. Le Festival de la Fiction, c'est entre 200 et 300 comédiens qui se succèdent sur le port, mais c'est aussi de grands professionnels, des producteurs, des présidents de chaînes de télé, des scénaristes. Et il y a tellement de projets qui se nouent à La Rochelle et qui se font à La Rochelle. Ça, peut-être que le grand public ne le sait pas toujours, mais beaucoup des fictions, je pense à Mongeville avec Francis Perrin, par exemple, qui s'est décidé à La Rochelle, mais il y a eu tellement de projets qui se sont noués ici dans notre belle cité.
Tu as raison de le dire, parce qu'effectivement, quand on va à La Rochelle, on a un grand moment de fête, un grand moment de variété, de diversité, de culture, de création. Mais le festival, c'est aussi un lieu d'inspiration et d'échange pour l'ensemble de la communauté audiovisuelle française et étrangère. Alors, on réfléchit sur notre avenir, on noue des relations amicales à la manière de La Rochelle, je dirais pas le festival, mais à la manière de La Rochelle, c'est-à-dire dans la plus grande simplicité, avec la plus grande beauté. Et effectivement, le festival qui était, dont l'ADN est la création française, est aussi un festival d'inspiration pour les professionnels.
Alors, le paysage audiovisuel change, Stéphane, on le sait tous, et c'est une belle manière cette année que le festival a de s'ouvrir encore un peu plus, outre toutes les sections, évidemment, de séries en 26 minutes, en 52 minutes, les fictions unitaires, les fictions aussi, bien sûr, francophones, étrangères, européennes, tout y passe. Et bien, cette année, le festival s'ouvre aussi aux plateformes, avec notamment des avant-premières pour Amazon Prime ou encore pour Netflix. Ça aussi, c'était une volonté, évidemment, ça fait partie à part entière maintenant, aujourd'hui, de la fiction, puisque c'est deux plateformes, notamment et Disney Plus aussi, aujourd'hui investissent de plus en plus dans la création française.
Ce sont des acteurs incontournables de la création française. Donc le festival a travaillé à les convaincre, à leur montrer que ce temps de la rentrée, le grand moment de la rentrée, la grande fête de la création, était le lieu idéal pour qu'ils puissent nous montrer leurs avant-premières mondiales, hein, avec Netflix et Prime Video qui nous rejoignent, et certainement d'autres dans les années à venir. Et on en profite gratuitement pour le grand public.
Et oui.
C'est ça, le plaisir du festival.
C'est unique.
C'est cette rencontre entre les étoiles et le grand public dans la plus grande des simplicités à travers des œuvres qui vont vous bouleverser, vous faire rire et pleurer.
Demain soir, le festival fera sa grande soirée donc d'ouverture avec Lou Denis et Lyon. Ça, c'est la jolie surprise. On espère peut-être que Mathieu Madénian viendra nous faire un petit coucou en clôture, non? Pas forcément.
Ah ben c'est Mathieu Madénian
qui fait la clôture,
qui va, je le dis, présider la cérémonie de clôture de manière totalement traditionnelle pour le plus grand plaisir de l'ensemble du public, évidemment.
Ah puis attends, les élus seraient capables de te virer si t'as pas Madénian en clôture maintenant, hein?
Et je ne serai pas viré cette année, c'est le problème, parce que Mathieu est là et je veillerai chaque année
à ce qu'il soit là.
Ce temps incroyable avec Mathieu qui est un grand ami du festival. Et puis comme tu le disais, c'est Lou Denis et Lyon qui nous fait la joie de nous proposer une cérémonie d'ouverture. Lou Denis, c'est un ami du festival, c'est un ami de Juste Humain, tu sais, cette association que nous soutenons depuis le début.
Et que nous aussi, d'ailleurs, on soutient avec Nathalie Nikoloff, qu'on embrasse, d'ailleurs.
Exactement, et qu'on embrasse très, très fort. Et moi, je suis très fier que Lou Denis se traite à un jeu qui est tout à fait délicat pour un artiste, de se confronter à l'ensemble de la profession, toute présente devant lui.
Alors, on va parler des événements. Demain soir, pour l'ouverture, il y aura la fiction Canal+. Ça sera Canal+ qui sera l'honneur. Demain, donc Canal+, mais
Marie-Antoinette. Exactement.
Une série à ne pas manquer. Mercredi soir, La Maison d'en face avec Julie Debona, Thierry Neuvik, un casting incroyable, Marc Ruchman. Ça sera pour M6. Il y a les combattantes, évidemment, qui sont diffusées lundi
Michina
prochain.
Michina la pauvre.
Oui, pour Amazon.
Alain, Michina la pauvre, présentée par Prime Video pour la première fois le mercredi 14.
Aussi.
À 19h30. Papillon Noir, Arte, le jeudi 15.
Ouais.
Et puis, Les Combattantes, TF1, le jeudi 15. Diane de Poitiers, France Télévisions.
Pour France 3, réalisé par José Dayan, d'ailleurs.
Exactement, avec Isabelle Adjani. Et Notre-Dame, La Part du Feu, Netflix, le samedi 17, viendra clôturer les fictions événements de cette édition 2022.
Samedi, la part belle est faite, évidemment, aux séries quotidiennes. Et alors là, je crois que c'est un record, parce que je crois qu'en 1 minute 30... toutes les places qu'il y avait de réservation pour les séances de dédicaces pour Ici tout commence, Demain nous appartient, Plus belle la vie, et on va revenir d'ailleurs plus longuement sur Plus belle la vie après, mais et Ainsi grand soleil ont été réservés, mais en 2 minutes sur le site. Ça a été incroyable ce qui s'est passé là.
Nous sommes victimes du succès du festival, de ce goût du grand public pour ces quotidiennes, pour ce temps de rencontre, pour ce moment qui, je le rappelle, sur ton antenne, est un temps essentiel pour les artistes, puisqu'ils ont la chance absolu de rencontrer le grand public. Bon, il y a un moment d'émotion encore peut-être plus important, en tout cas dans mon cœur, il est très important. C'est effectivement l'événement Plus belle la vie.
Oui. Et, avec une grande convention, on vous donne rendez-vous. Exactement. Parce que c'est 14h30 à la Coursive samedi. Il y aura une séance de dédicace évidemment qui va suivre à 16h30. Et là, c'est 20 comédiens, dont pas mal d'historiques, qui seront présents pour ce grand final.
Il était incontournable que nous soyons là à leur côté jusqu'au dernier moment. On veut un moment festif. Ce sera un grand moment d'émotion, j'en suis sûr.
Vous pourrez retrouver d'ailleurs toute la liste des comédiens présents de toutes ces séries quotidiennes sur notre site onécoutelaté.com. On vous a mis puis toutes les informations de cette édition. Vous pouvez les retrouver aussi sur le site du festival-fiction-télé.com. Un rendez-vous à ne pas manquer, et sur évidemment Festival de la Fiction sur Facebook. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous. On se retrouve demain du coup.
Oui, on se retrouve demain pour la cérémonie d'ouverture et pour cette semaine de fêtes et de création française.
Alors, je vais pas te souhaiter une bonne nuit parce que je pense qu'elle va être très courte, mais en tout cas, on a hâte de te retrouver demain à La Rochelle. Merci beaucoup Stéphane, à très vite.
Merci à toi.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, on parlera du film Une belle course avec Christian Carion qui sera notre invité exceptionnel. Spécial également du film Maria Rêve, le film sortira le 28 septembre au cinéma. À cette occasion, les deux réalisateurs, Lauriane Escaffre et Yvonique Muller, sont nos invités accompagnés de Karine Viard pour la première fois dans Chute, on écoute la télé, et Grégory Gadebois. Un rendez-vous à ne pas manquer. On évoquera évidemment bien sûr aussi La Maison d'en face, la série événement d'M6, et Les Combattantes, la série événement de TF1 avec une partie de leurs équipes.
Attitude.
Et n'oubliez pas que Chute, on écoute la télé sur Attitude, c'est aussi la quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, midi 7 et 16h07. Vous pouvez aussi retrouver le podcast de cette émission dès ce soir, 20h, sur notre site internet onécoutelatélé.com, et nous suivre tout au long de la semaine sur nos Facebook, Instagram et applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée demain soir à 19h. Alors il me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle après-midi à l'écoute de nos programmes sur Attitude. À tout à l'heure, 16h07 pour la dernière quotidienne de la journée.
Chute, on écoute la télé avec France Pare-Brise Cognac. Intervention sur tout type de vitrage et sur tout véhicule. France Pare-Brise est agréé toutes assurances et vous propose le prêt d'un véhicule en cas de besoin. Alors n'hésitez plus. Prenez rendez-vous chez France Pare-Brise, 79 avenue de Saintes à Cognac.
Chute, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.